Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Vous allez bien? Vous ennuyez pas trop? Non, je m'ennuie jamais. J'ai tué mes semblables. Voir cette façon d'évoluer, de s'exprimer, ce sera mon métier. Ce genre d'observation. Elle me dit, ah bon? Oui, je vais être ethnologue, géologue. Elle lui dit, moi aussi, j'ai fait ça chez les Esquimaux. Oui? Oui, moi. Vous ne croyez pas? C'est-à-dire que je suis resté un an chez les Esquimaux et je suis même marié avec un Esquimau. Elle lui dit, là vous exagérez. Elle lui dit, puisque vous ne croyez pas, venez, je vais vous montrer mes papiers. Il la suit et le mène à sa chambre qui est au deuxième étage.
Bonsoir mesdames et messieurs, c'est moi votre animateur pour la soirée. Je viens juste de me marier. J'ai épousé la femme la plus grosse du monde.
Entrez. Il entre. Vaste pièce meublée avec des meubles style colonial 1930. Grand lit, table de nuit, armoire, bureau, chaises et vitrines avec des masques indonésiens. Il lui dit, on se croirait dans un film 1930. Elle lui dit, mais qu'avez-vous, va. Elle va à son bureau. Ou un tiroir pour en sortir. Son passeport et des photographies. Venez voir. Il s'approche d'elle. Elle lui montre le passeport. Elle lui dit, oui, je vois que vous êtes allé là-bas. Elle lui montre les photos. Voyez, c'est bien vrai. Oui, pardonnez-moi, mais qu'avez-vous été faire là-bas? J'aime connaître d'autres civilisations que la nôtre. J'aurais aimé vivre ces 200 ans plus tôt pour découvrir d'autres continents, d'autres civilisations. Il lui dit,
Moi aussi. Dans 6 mois, je pars pour l'Australie. Vous avez de la chance, il lui demande. Et que faites-vous pour le moment?
Rien, il lui dit.
J'aimerais vous revoir, me parler des Esquimaux.
Oui, je veux bien,
il lui dit. Venez demain à 15h devant le musée Guimet, et après nous irons chez moi boire un verre.
Oui, je veux bien.
Et le lendemain à 15h, elle l'a retrouvé devant le musée Guimet. Ils l'ont visité, puis l'a mené chez lui. Il habite un petit F1, rue Garibaldi, dans un vieil immeuble sans style ni ascenseur, au 3e étage.
Elle entre. Petit couloir, plein de cartons, les pièces principales à un lit devant une table ronde en bois, 4 chaises, coin cuisine, c'est-à-dire l'évier et la cuisinière au gaz avec un buffet. Il y a aussi le séjour, une armoire penderie. Au-dessus se trouvent des valises. Et une porte qui donne au cabinet de toilette. Les pâtes sont propres. Ça sent une odeur de moisi. Sur la table, il y a des piles de livres et des feuilles de papier. Asseyez-vous. Elle fait asseoir à table.
Il lui explique son voyage. Elle lui parle du sien. Mais ils sont plus passionnés par celui qu'il va faire, l'œuvre du café en poudre. Elle est enchantée de sa première visite. Lui et lui par elle. Ils décident de se voir. C'est ce qu'ils font. Ils se voient plusieurs fois par semaine. Et un après-midi de pluie, où elle est arrivée, elle était toute trempée, elle était obligée de se déshabiller, puis sécher ses vêtements. Il lui a prêté un de ses pulls longs et simples en laine grise. Il était pris par la beauté de ses jambes. Il a donné un bol de café fumant. Puis l'a fait lever de sa chaise et venez, l'a mené au lit. Vous êtes tellement belle que j'aimerais mieux vous connaître intimement. Elle lui a dit, c'est normal, faites votre métier. Il l'a prise dans ses bras. Lui a embrassé ses cheveux, elle s'est dégagée et enlevé le pull. Elle est nue, il la regarde bien, lui baise les deux seins et la fait coucher sur le lit.
Puis, il se déshabille en vitesse. S'allonge près d'elle.
Mais, chaque fois qu'ils se voient, ils font l'amour. Mais, ces deux personnes qui savent ce qu'elles font et le pourquoi du comment. Cela n'empêche pas qu'ils aient des sentiments l'un pour l'autre. Le temps passe, prépare son départ. Un jour, elle lui dit « Je vais partir avec toi. » Il ouvre ses épaules et lui dit « Pourquoi pas ?» Le soir même, elle va en parler à son père, à son bureau. Ils sont tous deux assis dans le fauteuil. Après l'avoir entendu, le père lui dit « Tu es majeur, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu veux mon sentiment ou mon aide, je te les donnerai si tu l'épouses. » Elle se lève et lui dit « Non père, je me passerai de votre aide. Il n'est pas question que je me marie. Eh bien ma fille, débrouille-toi toute seule. »
Elle quitte le bureau.
Le lendemain, elle dit à son amant, je pars avec toi. J'en ai parlé au père. Je n'aurai pas un centime de lui. Elle fait la grimace. Elle lui demande, je pars avec toi. Oui, bien sûr, dit-il. Et 5 mois plus tard, ils sont partis. Elle a emprunté de l'argent à Nicolas. Nicolas, lui, déprime parce qu'il ne trouve pas de film à faire, alors il lit beaucoup, enfermé chez lui. Il aime les livres d'une façon physique, il aime sentir l'odeur du papier, le toucher. Mais il n'aime pas les livres de prix, car il veut qu'ils ne soient pas trop lourds et souples. Un livre de poche, c'est bien. Le papier ne doit pas être trop blanc. Ne pas faire mal aux yeux et les caractères pas trop fins. Il ne s'occupe pas de l'auteur ni du style, car ce qu'il veut, c'est éprouver du plaisir. Le style ne doit pas se faire au détriment de l'histoire. Une belle phrase, de bons mots, ne doivent pas ralentir l'histoire. Si l'on voit que le style, la belle écriture, le français parfait, cela veut dire que le livre est raté. Un livre réussi doit faire oublier le bel effet, la belle ouvrage. La perfection dans la langue, c'est de la technique, ce n'est pas de la création. Des gens sont de bons techniciens, mais n'ont aucune idée créative. Un français parfait
et un français parfait et un style sans création ne peuvent donner de l'émotion. Certaines pièces de la classique sont usées, vieillottes et ennuyeuses à cause de la perfection de la langue au détriment de l'histoire. Nicolas se dit que pour le cinéma, c'est la même chose. La perfection technique sans histoire, ce n'est rien. On ne doit pas s'exprimer dans un film comme dans un livre. Le visuel doit être prioritaire au dialogue. C'est pour cela que les gens qui sont trop intellectuels n'ont jamais été de grands cinéastes. L'intello de gauche est littéraire. Il y a des exceptions, mais c'est rare. Les intellos ne savent pas s'exprimer en dehors des mots. Les Américains ont compris que le cinéma n'est visuel, est un art visuel. Ils ont raison. C'est un art du spectacle avant tout. L'intime doit être fait avec beaucoup de précautions. Ne pas faire trop littéraire ni théâtre. Faire des dialogues cinéma en n'oubliant pas qu'un regard ou un geste peut en dire autant qu'une phrase et que trop de dialogues tue un film. Ne pas oublier, c'est de faire jouer les acteurs cinéma, c'est-à-dire près de la vie et non théâtre, ce qui fait faux. Éviter de les faire parler face à la caméra comme face à une scène. Le regard illuminé dans le vague pour débiter la beauté de la nature ou autre. L'on montre le personnage qui voit la nature. Il parle avec un ton naturel. Il ne doit pas appuyer sur la belle phrase ou sur la phrase clé. Les gestes doivent être naturels aussi. Éviter les acteurs de théâtre, même les débutants. Ne pas faire apprendre par cœur le texte, de leur faire écrire et apprendre juste avant la prise. Comme cela, vous avez le ton que vous voulez. Voilà à quoi pense Nicolas. Il met sur papier toutes ses idées sur le cinéma. Lorsque c'est publié, dans un petit fascicule, les intellectuels critiques de cinéma qui croient seuls détenir la vérité car ils ont la Bible du cinéma et ce qu'il doit être, donc ces intellos crient au scandale. Nicolas a osé critiquer le cinéma, leur cinéma d'auteur, comme ils disent, eux. Et comme ils le voient, eux, ce cinéma d'auteur. Nicolas leur répond dans un journal. L'on est auteur même si on fait un film d'action. Auteur ne veut pas dire film du néant. Pas d'histoire, pas d'effet, de jeu de caméra, de musique qui colle à l'image. Un bon film, pour certains, c'est un film où l'on ne doit rien ressentir. C'est de mauvais goût de ressentir quelque chose, c'est bon pour les incultes. Mais pour moi, faire un film où il n'y a rien, c'est nier le cinéma, car cela prouve que c'est impossible de s'exprimer avec cet outil. Là, à Paris, il est allé pour se distraire, voir un film. Il vient de voir le film d'une Élysée. En sortant du cinéma, un homme sort avec lui. Il est grand mince, le visage osseux, les cheveux bruns un peu frisés, habillé d'un costume gris. L'homme lui demande, vous avez aimé? Oui. Beaucoup. Moi aussi, j'adore les grandes histoires d'amour fou. Nicolas lui sourit, lui dit, c'est comme moi. Une fois dehors, de l'homme lui demande. Je m'appelle
François Coteau. Et vous? Moi, c'est Nicolas Graff. L'homme lui dit, si vous désirez, je peux vous inviter chez moi, boire un dernier verre, ou je veux bien, merci. L'homme le mène vers une grande voiture de sport, métal rouge, très classe.
Ils entrent dans la voiture.
Et la voiture est partie. Elle s'est arrêtée devant un grand immeuble moderne de luxe. Nous sommes arrivés.
Ils sortent de voiture. Et l'homme le fait entrer dans l'immeuble, dans l'allée de l'immeuble. Tout en vitre et marbre.
Il le mène à l'ascenseur. Monte jusqu'au dernier étage.
Le dernier étage est à moi. Les deux appartements, j'en ai fait comme. Entrez, je vous en prie.
Nicolas se dit qu'il doit être très riche par avoir un si grand appartement dans le 16e. L'appartement est moderne, hall d'entrée, trois chambres avec leur salle de bain, salon, salle à manger, bureau, bibliothèque et bien sûr cuisine et chambre de bonne. Il y a une grande terrasse qui donne sur les toits avec piscine et vue sur Paris. Meubles de jardin, plantes vertes, éclairage d'ambiance. L'appartement, sol en marbre, meubles modernes, laqué blanc et cru. Et verts, statues antiques et tableaux modernes. Les murs sont peints en blanc. Une fois qu'il lui a présenté tout ça, Nicolas lui dit « Mais c'est magnifique. Que faites-vous dans la vie ?»« J'écris des romans, pièces de théâtre et tout. Mais en plus, j'achète des studios pour les louer. C'est un très bon placement, vous voyez. Allez, allons au salon. » Pétille déjà un bon feu de cheminée. Assoyez-vous. Il le fait asseoir dans un fauteuil en cuir blanc devant une table verte dont on voit la cheminée et la nuit par les baies vitrées. J'irai boire du bourbon vermouth, bourgogne, vermouth. Moi aussi alors.
Va à un bar dans un coin de la pièce. Prends deux bouteilles et un verre. Le domestique est absente. Et il le met. Met sur la table basse et sert. Puis s'assoit en face de Nicolas.
Après avoir bu, François lui dit « J'aime les histoires d'amour folles. » Nicolas lui dit « Moi aussi. » François lui dit « J'ai entendu une histoire d'amour fou. Oui, vraiment, vraiment. Mais malheureusement, j'arrive pas à en faire un roman. »
cela lui demande.
Vous pouvez me la dire?
Oui, bien sûr, j'en ai fait un petit résumé. Je vais vous le chercher et vous le lire.
Il se lève et sort de la pièce. Revient avec un cahier. Se rassoit.
Ouvre le cahier.
Ah, voilà. Vous allez voir comme c'est beau. C'est la réalité qui dépasse la fiction. Vous allez voir.
Je vous écoute.
Et François, avant de lire, lui dit.
J'ai déjà un peu romancé la chose. Mais en gros, c'est comme l'histoire vraie. Voilà le résumé de mon histoire.
L'histoire se passe durant la Révolution de 1789. Le fils d'un précepteur aime l'élève de son père et l'élève l'aime. L'élève est une charmante jeune fille. La Révolution vient, la famille qui est noble, le précepteur et son fils, plus que quelques domestiques fidèles, veulent fuir la France.
Mais juste au moment où la famille s'apprête à prendre le bateau pour aller en Angleterre, la nuit, en cachette des autorités,
repérés par les gardes républicains qui les massacrent sur la falaise. Ils sont tous décimés, sauf le percepteur, sa femme et sa femme qui sont gravement blessés. La jeune fille est récupérée quelques jours plus tard par les marins qui la débarquent en Angleterre.
Là, elle vit avec des amis, des immigrés. Puis, elle est recueillie par une famille noble française. Les mois passent. Elle est courtisée, aimée, mais son âme est triste, comme si elle avait une grande douleur. L'on pense que c'est dû à la perte de ses parents.
Bonjour, je vais vous prendre un pain.
Le temps passe. Elle a appris l'équitation, l'escrime, la peinture, la tapisserie. Elle est devenue une grande et belle jeune fille au visage très fin. On la trouve un peu maigre et courtisée par un jeune homme. Mais elle a horreur qu'on la touche et se lave dans le noir, jamais nue. Un jeune chevalier veut se marier et partir aux Antilles avec elle. Elle refuse. Ses protecteurs sont mécontents de ce refus.
Un jour, un Français veut lui parler. Il semble être un bourgeois. Elle le reçoit, car il veut lui parler de la fortune de sa famille. L'homme lui dit, « Je sais qui vous êtes vraiment. » Elle lui demande, « Comment cela ?» Il lui répond, « J'étais le marinier qui était sur la barque avec votre famille. J'ai vu. Je vous dénoncerai. Je ne le ferai pas si j'ai la moitié de la fortune des Monson. » Avec sang-froid, elle le tue d'un coup de papier.
Elle cache le corps dans un coffre.
Puis, elle demande de l'aide à son suppérant pour aller jeter le corps à la mer. Après cela, il veut l'épouser. Elle ne peut refuser et lui dit qu'elle acceptera lorsqu'elle aura récupéré la fortune de sa famille. Quelque temps après, il vient lui dire au revoir. Son père l'oblige à partir pour les Indes. Il lui promet de lui rester fidèle. Le temps passe. Elle apprend que les immigrés peuvent entrer en France et récupérer leur fortune. Elle décide, c'est de partir en rentrer en France. Arrivée en France, on lui dit que pour récupérer sa fortune, il faut qu'elle donne des preuves de son identité. Malheureusement, tous les papiers ont été perdus dans les flots. Donc, elle se trouve en France, pauvre et sans personne, vit dans un hôtel minable, elle n'a pas le moral, pleure tout le temps. Dans les nuits, au fond de son lit, tremblante de froid, elle regarde son médaillon, le baise et lui dit, « C'est pour toi que je me bats. Tu es toi, et je suis moi. » Un jour, elle rencontre et sympathise avec une vieille noble qui la prend sous sa protection. La vieille dame est un peu folle, excentrique, aime jouer et rire. C'est une vieille femme qui a passé à travers la Révolution grâce à son insouciance. Il était impossible de lui en vouloir, ça aurait été ridicule. Elle invite Cévelle à Versailles dans une petite maison, lui parle de ses souvenirs, se fait sa dame compagnie et son amie. Toute la bonne société va chez cette vieille dame d'un autre âge comme on va dans un musée. Elle s'habille et a gardé les coutumes d'avant la Révolution. La jeune fille profite de ces soirées pour demander aide et justice pour récupérer sa fortune. Elle arrive à récupérer un château. Il retourne et retrouve le protecteur qui lui a permis d'acheter de la terre et de vivre en France. Ils sont tous deux très émus de se revoir. Le protecteur parle de son fils qu'il a perdu, mais n'a pas vu le corps mort. Il lui dit, « Si vous saviez comme il vous aimait !» Le protecteur lui présente sa femme Kouski se mord de chagrin. La jeune fille pleure avec eux. Les parents pensent que c'est parce qu'elle aime encore leur fils. Elle vit retirée dans son château, au milieu de ses souvenirs. On la trouve changée. Elle ne reconnaît pas la place de certaines choses. Elle ne veut pas qu'on la voie se déshabiller à des gestes brusques. Elle se promène aux endroits où ils se sont aimés. Elle est le fils du précepteur. Va dans la chambre du fils du précepteur en cachette.
S'allonge sur le lit.
Son fiancé lui écrit. Elle a réussi à trouver son adresse en écrivant au ministère de l'Intérieur. Mais comme elle était encore à cause de ses demandes pour retrouver sa fortune, on a pu lui donner son adresse. Dans ses lettres, il lui reproche qu'elle ne lui ait pas donné son adresse et lui demande si elle a retrouvé sa fortune. Le temps passe. Un jour, elle reçoit une lettre où il lui dit qu'il est heureux, qu'il aime toujours et veut la retrouver. Elle panique, veut partir, fuir, mais elle n'en a pas le temps. Il arrive. Elle est obligée de le recevoir à cause du scandale qu'il risque de faire, à cause de son entourage. Une fois chez elle, il lui demande un entretien privé. Elle le reçoit seule. Il veut absolument l'épouser. Elle lui répond que c'est impossible. Il y a entre eux une scène violente, faite de rage et d'amour. Elle en arrive même à se battre. Il veut la prendre tellement il est fou d'elle. Il la désire depuis si longtemps. Horrifiée, elle lui dit, j'avais dit que c'était impossible. Qu'allez-vous faire maintenant ? Il lui demande, pourquoi ? Est-ce pour la fortune ? Elle lui répond, n'y êtes pas. Elle lui raconte tout, son amour fou et son désir de vivre par procuration, à sa place, par amour, pour qu'elle continue à vivre. Parce que son amour est mort devant ses yeux. Il a cru perdre la raison et s'est travesti en elle pour que la vie lui soit supportable. Lui, le fils du précepteur, je suis devenu elle. Cela s'est fait tout naturellement. Ces robes me font frissonner comme si elle était dedans. Je vis que pour elle, que par elle, à sa place. Parce que c'est moi qui devrais être mort à sa place. Je vis pour elle, en elle. Je la défends et défends ses biens. Dans ce monde tourmenté, je passe plus facilement inaperçu parce que personne ne le voit et personne ne le saura. Il n'y a que vous qui le savez. Il lui dit, épousez-moi. Il lui répond, non, c'est impossible. Nous pouvons nous aimer. Il lui dit, peut-être pas vous, mais elle. Je vous aime tellement que mon amour est plus fort que le sexe, et vous de là. Je me moque de ce que vous êtes. Je suis pris. Je vous aime. C'est de votre faute aussi. Vous allez jouer avec le feu. L'amour est déraisonnable. Je suis incapable de ne plus vous aimer, même pour cette raison. C'est malgré moi. Laissez-moi vivre avec vous. Je serai libre. Je me demande que de vivre près de vous. Elle ou lui dit « C'est impossible, car je serai jaloux de vous, parce que vous aimez son image, l'image de celle que j'aime. À chaque fois que je vous verrai porter les yeux sur moi, je me dirai, il les porte sur elle. » Il lui répond « Ne craignez rien, comme je ne l'ai pas connu, c'est vous que j'aime. » Il lui dit « Je ne peux, veux vous aimer, car en vous aimant, je me tromperai. » Tout à coup, il a un moment de lucidité et lui dit « C'est de la folie tout ça, c'est horrible. »
Et il se tombe en courant.
Il panique, il a peur qu'il ne dévoile son secret, court à l'auberge où il a loué une chambre et lui demande un rendez-vous une dernière fois pour parler en marchant. Là, dans les bois, il tue d'une balle dans la tête. Cela l'effraie et l'attriste, puis est satisfait que ce soit fini. Le temps passe. Le temps passe. La femme du précepteur meurt. Il assiste à son agonie. Là, il a deux doigts de dire son secret. Mais une pensée le retient. Son père le rejetterait, ne comprendrait pas. Il se dit, je ne peux plus retourner en arrière. Il garde toujours le portrait sur lui, celui de la jeune fille. Le temps passe. Il vit retiré dans sa chambre. En haine, ne veut voir personne, donne beaucoup d'argent aux pauvres de la paroisse. Il est resté très respecté. À force de faire des gestes féminins, de parler comme une femme, son esprit finit par se comporter tout naturellement comme une femme. Féminin, en pensée comme en geste, lui devient naturel. Il est devenu elle, pour de vrai, et se met à s'aimer comme une femme qui en aimerait une autre. En maquillant sa personnalité, la transforme pour de vrai. Elle se laisse même par rire. Pour rire, courtisé par le fils d'un châtelain voisin. Le temps passe. Elle est devenue une vieille femme au petit four et domino. Un matin, on l'a retrouvée morte dans son lit. Le médecin est appelé. Il examine et se prépare à lui faire sa dernière toilette. En le déshabillant, là, il voit avec surprise que la bonne dame était un homme. Vite, elle prévient le curé de sa découverte. Le curé lui dit de ne rien dire parce que c'était une bonne âme qui a beaucoup aidé son prochain. Cela risquerait de troubler les esprits et faire un grand scandale. Mais le prêtre se demande pourquoi ce déguisement. Il fait une enquête discrète et ne trouve rien. Il croit comprendre que ce serait pour prendre la fortune de la famille.
mais cela paraît gros, car la fortune n'est pas trop grosse et il ou elle n'en a pas vraiment profité, puisque il ou elle vivait replié et c'est surtout les pauvres du coin qui en ont profité. Alors, mystère. Dans un asile d'une petite ville de Bretagne, une vieille femme aux cheveux blancs, maigre, assise sur un grabat, au milieu d'une dizaine de vieux, se met à hurler. Je suis la fille du marquis de Manson. Je suis la fille du marquis de Manson. Son corps avait été jeté de la barque, évanoui, et déposé sur le rivage sans connaissance. Un coup à la tête a été ramassé par des pêcheurs. Le coup lui avait fait perdre la raison. Si le fils du précepteur, qui avait cru qu'elle était morte, et le corps jeté à la mer, avait su qu'elle n'était qu'assommée, serait jetée à l'eau pour la récupérer, et sa vie aurait été autre. Nicolas, enchanté, lui demande « Est-ce une histoire vraie ?» Mais vraiment vrai?
Elle est vraie, mais j'ai arrangé. J'ai changé les noms.
En réalité, on n'a jamais su qui était cet homme qui avait pris l'identité de la femme.
On croit seulement, sans preuve, que c'était le fils du précepteur. Je ne sais pas pourquoi non plus il a fait cela. Dans la réalité, elle ou il n'ont jamais récupéré leurs biens. C'est bien. Même pas un château. Elle est arrivée en France pour récupérer ses biens, s'est installée dans un hôtel minable à Versailles. Par hasard, elle a fait la connaissance d'une vieille femme excentrique, pas très riche, mais qui tenait salon et avait des relations. Cette femme noble a cru à son histoire, l'a prise sous sa protection, l'a présentée à des personnes comme Talleyrand. Mais comme elle ne pouvait pas prouver ses origines, et comme elle était aussi excentrique, on la prenait pas au sérieux. On la disait un peu folle. Elle a continué à vivre comme ça, à demander ce qu'on lui rende ses biens. Elle a même été un peu courtisée par des hommes. Puis un jour, elle est morte, vieille. On a découvert la supercherie sans savoir qui il était. Qui a découvert, je ne sais pas. Et pour ce qui est de la fin, je fais revenir la vraie comtesse, ça c'est une de mes inventions, comme pour le maître chanteur et le fiancé. Mais là je crois qu'elle avait un fiancé en Angleterre. Voilà, j'ai entendu cette histoire. C'était un historien qui parlait de cette histoire. J'en étais subjugué et j'ai voulu l'écrire. Je crois que ça pourrait faire un très bon film. Nicolas lui dit...
Oui, moi aussi, mais la guerre...
Mais la jeunesse n'aime pas les films d'époque, et comme c'est le plus gros public de cinéma, faudrait peut-être transporter cette histoire à notre époque, en tout cas dans le XXe siècle. Peut-être durant la dernière guerre, la famille part pour l'Angleterre, et est découverte par les Allemands juste où ils allaient partir. Une seule personne en réchappe, et réussit à aller en Angleterre, c'est une jeune fille. Après-guerre, elle revient en France. Mais là aussi, il va falloir, comme la jeunesse, pour eux, la guerre de 40 est aussi chiante que celle de 100 ans, et comme c'est notre public, il faudra commencer le film par le retour de la jeune fille en France après-guerre, et mettre un bref flashback qui raconte le début de son histoire, très rapidement, et présenter après une demi-heure de film au plus tard. Car si le film passe à la télévision et qu'il voit des soldats de la guerre de 40, ils vont fermer leur poste. Et si la première demi-heure du film leur a plu, et qu'ils sentent un mystère dès le début, ils resteront même s'ils voient apparaître une façon fugace des SS.
L'écrivain lui dit, faut réécrire l'histoire alors.
Oui, mais en gardant le drame. Et si vous voulez, vous pouvez en plus d'un film faire un téléfilm. Et là, vous pouvez garder votre histoire dans son époque comme sans rien changer. Comme vous l'avez écrite. Parce que ce n'est pas le même public. Celui des téléfilms accepte les histoires d'époque. Et il est plus vieux que le cinéphile et aime qu'on lui raconte de belles histoires d'amour avec de beaux costumes et décors. François lui dit, avec un scénario, on peut faire deux films différents. Nicolas lui dit en riant, oui, et on peut gagner gros. Sympathise, prépare le scénario des deux films. Nicolas est pas bien tourné le film. Comme il est bien occupé, son cafard est parti. Un soir, qu'il est chez l'écrivain dans son salon, Nicolas lui demande « Vous avez d'autres histoires, comme celle-là ? »
Un jour, j'ai lu La jeunesse de Louis XIII. Le livre s'appelait, je crois, L'amant du roi.
Très beau livre, bien écrit.
Le roman historique commence par la mère de Louis XIII, qui était sophiste. Elle est arrivée en France avec sa maîtresse en détestant les hommes. Son mari, Henri IV, arrive à la mettre enceinte. Elle a de la répugnance pour lui et son enfant qui est un mâle. Elle met son fils ou les appartements de son fils dans une aile du château et interdit aux domestiques de parler au dauphin qui est d'après elle un simple d'esprit. L'enfant vit seul, sans amis, personne ne lui parle. Il n'a qu'une joie, c'est voir voler les oiseaux dans sa volière. Il est pratiquement laissé à l'abandon, on ne lui apprend rien, on le laisse dans la saleté. Sa mère ne le voit pas. Le temps passe. Henri IV, son père, mort assassiné. Cela touche beaucoup le fils et se met à vouer de la haine à sa mère. La reine met aux affaires du royaume le frère de sa maîtresse.
Radio Cadou vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la 22e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.